Et nous passons à la dernière communication avant la pause, qui est de Madame Julia Ryder, qui est donc doctorante à l'Université de Lausanne, qui vient d'achever une thèse de doctorat sur le livre du Lévitique, plus spécifiquement sur la partie du Lévitique appelée loi de sainteté, va donc nous parler aujourd'hui sur le thème sang et centralisation culturelle, Lévitique 17. Voilà, Julia, merci beaucoup.
Les lois de Lévitique 17 ont longtemps occupé une place importante dans l'étude des textes rituels concernant l'usage du sang qui sont attribués aux traditions sacerdotales du Pentateuque. Et ces chapitres qui ouvrent dans le Lévitique une collection désignée comme « Loi des sanctités », Lévitique 17 à 26, contient des commandements clés concernant les sacrifices des animaux et l'interdiction de la consommation du sang. C'est aussi la seule explication repérable dans les traditions sacerdotales sur la manière dont le sang fonctionne comme une rançon pour les vies des Israélites et étant manipulé et disposé rituellement sur l'autel. Cependant, et en dépit du consensus général sur l'importance du motif du sang en Lévitique 17, la relation entre ces motifs et l'un des thèmes majeurs du chapitre, à savoir celui de la restriction des pratiques de boucherie et du sacrifice sanglant, et un seul sanctuaire, reste un sujet inexploré. Ces processus de centralisation culturelle suscitent un énorme intérêt dans les études sur le Lévitique 17. Cependant, jusqu'à présent, l'interprétation de Lévitique 17 par rapport à la centralisation culturelle a été largement détachée de l'étude des instructions qui se trouvent dans ces mêmes chapitres concernant la manipulation rituelle du sang. Il me semble que ces colloques offrent une occasion propice à l'examen de la relation entre ces deux thèmes centraux du chapitre. Je voudrais donc proposer quelques hypothèses à cet égard. Je discuterai brièvement de la place du sang comme motif clé dans la structure de Lévitique 17, le rôle du sang vis-à-vis de la justification du monopole du sanctuaire central sur la gestion de bataille, et la signification de Lévitique pour l'étude de la centralisation culturelle et de l'histoire de la religion de l'Israël ancien. Le texte de Lévitique 17 se compose d'un discours adressé par Yahvé à Moïse pour que ce dernier le transmette à son tour à Aaron et ses fils, ainsi qu'à tous les fils d'Israël. Ce discours se trouve dans le récit sacerdotal de la fondation du peuple d'Israël et de son culte au pied du mont Sinaï, au moment d'une unité idéale auprès du sanctuaire imaginaire, la tente de la rencontre, Oel Moed en hébreu. Ce sanctuaire fonctionne comme le centre du culte et de la communauté pendant la période de séjour au désert. Il fait ainsi l'objet d'une dévotion et d'une attention partagée de la part de tous les Israélites. Les sanctuaires servent alors à renforcer les liens de la communauté par son service commun à une divinité patronne. Il est donc considéré par la majorité des biblistes comme archétype des sanctuaires centrales dans la mesure où il incarne l'idéal d'un seul sanctuaire pour toutes les 12 tribus d'Israël. Le corps de Lévitique 17 consiste en 5 lois casuistiques qui sont divisées en 2 parties. Une première partie concerne le lieu désigné pour l'élimination rituelle du sang des animaux. Une seconde partie concerne le sujet de la non-consommation du sang. Ces 2 sous-sections du chapitre sont structurées de la même façon. Chacune d'entre elles s'adresse une question législative principale qui est complétée par une justification et un cas supplémentaire. De façon significative, les 2 sous-sections partagent une attention spécifique pour l'élimination correcte du sang. qui représente en ce sens le thème unifiant de deux parties. Les mots d'âme sont en hébreu, fonctionnent comme le motif central qui unifie les lois, car il se trouve 13 fois dans les 16 versets du chapitre. Même si le mot d'âme ne se trouve pas dans les lois des versets 8 à 9 ou 15 à 16, les deux lois demeurent connectées au thème du sang, car elles évoquent deux cas où il y a un risque d'élimination incorrecte du sang. Dans les versets 8 à 9, ce risque est présent si un animal domestique est sacrifié en dehors du sanctuaire central. Son sang ne pouvant donc pas être éliminé sur l'autel. Mais dans les versets 15 à 16, ce risque est également présent si les Israélites ou les immigrés mangent de la charogne. Dans ce cas, le risque est que le sang coagulé ne puisse pas être éliminé correctement du cadavre. De plus, les deux lois servent comme complément aux lois principales dans leur section respective où la question de l'élimination du sang est adressée explicitement. Le thème du sang peut donc être considéré comme le fil rouge de Lévitique 17. Il fait partie intégrante de la logique plus générale du chapitre. La première section de ce chapitre commence en expliquant les conséquences désastreuses du versement du sang hors du sanctuaire, impliquant dès lors l'interdiction totale de la boucherie locale. Lévitique 17, versets 3 à 4, déclare que si un homme faisant partie de la communauté d'Israël, et également les immigrés, selon la version grecque et un manuscrit de Qumran, 4 que 26, abat, charat, un animal sacrificiel, un bœuf, un agneau, une chèvre, hors de la tente de la rencontre, il sera coupable de verser le sang, au point qu'il devra être exclu de son peuple. Le vocabulaire de verset 4 crée un lien entre l'acte d'habitage en dehors du sanctuaire et la gravité de l'homicide, notamment l'expression d'âme shafar, qui reprend le langue de Genèse 9, 6, où la même expression se trouve dans le contexte de l'interdiction d'homicide. Le vocabulaire de Lévitique 17, 4 élimine donc effectivement toute distinction entre l'habitage qui ne respecte pas le monopole du sanctuaire et le meurtre proprement dit. La seule manière d'éviter la culpabilité pour les sangs versés lorsqu'on abat des animaux sacrificiels est donc d'éliminer tous les batailles au sanctuaire central et aux prêtres qui y officient afin que le sang puisse être éliminé rituellement. Cet argument est renforcé dans les versets 5 à 7. Qui juxtapose l'abattage rituel pratiqué dans le sanctuaire central à l'idolâtrie qui est intrinsèquement liée, selon les auteurs de Lévitique 17, à la boucherie locale. Ces versets suggèrent que l'acte de verser le sang des animaux sacrificiels en dehors du sanctuaire produit un effet involontaire, involontaire, celui d'offrir des sacrifices zévarim aux habitants d'espaces sauvages et périphériques, les seirim, boucs sauvages, mentionnés dans le verset 7, dont la vénération est considérée comme inappropriée. Les procédés rituels pratiqués dans le sanctuaire central, en revanche, évitent les risques de l'abattage dans les sadés, champs ouverts, tout en assurant la faveur de Yahvé. En effet, la description en verset 6 de la manipulation du sang et de la graisse par les prêtres auprès de l'autel est mise en exergue par les contextes créés par les versets 5 et 7. Ces deux versets, en faisant cadre autour du verset 6, indiquent que celui-ci est l'objet principal des lois de versets 3 à 7, dans l'ensemble en fait. Donc la nécessité vitale d'apporter tous les animaux sacrificiels au sanctuaire central pour les traitements rituels est donc soulignée. Les versets 8 à 9 complètent l'interdiction de la boucherie locale par une loi qui exclut la possibilité d'offrir à Allah, en hébreu, un sacrifice sanglant à Yahvé en dehors de l'attente de la rencontre, rendant dès lors explicite la nécessité pour toute la communauté d'offrir les sacrifices animaux exclusivement à un seul sanctuaire. L'accent de ces lois reste focalisé sur les sacrifices sanglants. Comme Milgram l'explique, l'expression « Ola aux avares » fonctionne comme un mérisme qui exprime la totalité des sacrifices sanglants et n'inclut pas nécessairement les sacrifices non sanglants, tels que la minra, offrande céréale décrite en Lévitique 2, ou la nesek, libation mentionnée en Lévitique 23 et ailleurs. Cette portée restreinte de l'expression « Ola aux avares » apparaît clairement au nombre 15, où les Israélites sont chargés d'ajouter les minras et nesek lorsqu'ils offrent une « Ola aux avares ». Cette précision serait inutile si l'expression « Ola aux avares » incluait déjà ces offrandes non sanglantes. La loi de versets 8 à 9 renforce donc l'accent des versets 3 à 7 sur la nécessité de se référer au sanctuaire central pour tous les aspects qui concernent spécifiquement la sacrifice sanglant. Cette assertion du monopole du sanctuaire central est également énoncée dans les deuxièmes sections de Lévitique 17, en particulier au verset 10 à 14, qui concerne la non-consommation du sang. Il ne s'agit pas ici de la première fois que les traditions sacerdotales interdisent la consommation du sang. On trouve déjà en Genèse 9 une interdiction absolue de manger le sang avec la chair des animaux. Cependant, Lévitique 17 est le premier et le seul passage dans les traditions sacerdotales où cette interdiction est justifiée par l'évocation du procédé rituel de l'élimination du sang sur l'autel. Le verset 11 est caractérisé par une double orientation vers les deux sujets principaux de Lévitique 17. D'une part, il fournit l'explication fondamentale de pourquoi le sang ne peut jamais être consommé. D'autre part, il revient sur le thème de l'élimination du sang des animaux sacrificiels sur l'autel. C'est la capacité du sang à effectuer les kippers sur l'autel qui nécessite sa non-consommation. Ceci afin de le dédier sur l'autel dans le cas des animaux sacrificiels. Il faudrait pouvoir analyser plus longuement le sens du verbe kappa ou piel dans la phrase le kipper al nafshoterem. Je peux mentionner brièvement ma préférence pour l'interprétation avancée par Milgram et Schwartz, entre autres, pour qui l'expression exprime le sens de servi de rançon. Ce sens du verbe kipper est attesté dans les textes d'Exode 30, 16 et Nombre 31, 50. Où l'expression « le kipper al nafshoterem » apparaît également. Mais cette référence au rituel du sang auprès de l'autel central positionne l'interdiction de la consommation du sang comme un rappel quotidien du droit du sanctuaire central à manipuler le sang du bétail. À chaque fois que les Israélites mangent des animaux domestiques, ils sont confrontés à la nécessité d'éliminer les sangs de façon appropriée, à savoir auprès du sanctuaire central où les prêtres Yahvé servent comme les agents choisis de la divinité. Pour les gibiers qui ne peuvent pas être sacrifiés, un autre procédé est prévu par lequel les sangs sont versés sur la terre et recouverts de terre. La justification donné par les versets 11, agit donc à la manière d'un renforcement sophistiqué de la logique des ordres des versets 3 à 9, selon lesquels tout abattage des animaux sacrificiels doit passer par l'autorité du sanctuaire central, rappelant ainsi la signification culturelle du sang et la centralité du sanctuaire. Dans l'ensemble, les lois de Lévitique 17 démontrent comment les affirmations de la puissance du sang justifient les droits du sanctuaire central et de sa prêtrise à contrôler les pratiques qui entourent l'abattage de bétail. Le sang a la capacité, quand il est éliminé sur l'autel, d'expier la vie du dédicant. Mais à l'inverse, quand il est versé hors du sanctuaire par les Israélites, il les rend coupables de cette dispersion du sang, ce qui équivaut à un homicide ou à de l'idolâtrie. Il y a donc un seul endroit que la divinité considère comme approprié pour l'élimination du sang. Son sanctuaire central, administré par Aaron et ses fils, est reconnu par tous les fils d'Israël comme la demeure exclusive de Dieu. Une fois reconnu l'importance des prescriptions des rituels sanglants pour la logique de Lévitique 17, plusieurs questions émergent quant à la manière dont nous devons interpréter son discours de décentralisation. En particulier, il faut se demander comment l'emphase placée par Lévitique 17 sur l'importance rituelle du sang pourrait affecter l'idée traditionnelle selon laquelle les traditions sacerdotales seraient les héritiers d'un courant de pensée deutéronomique ainsi qui concerne la nécessité de la centralisation. La thèse classique indique que les auteurs de Lévitique 17 limitent les sacrifices animaux à un seul sanctuaire car ils acceptent les principes de la centralisation culturelle qui est stipulé en Deutéronome 12. Ces textes insistent sur le fait que Yahvé ne peut être vénéré que dans les lieux Makom uniques qu'il choisira. Mais, en sorte de compensation, il admet pour les Israélites la possibilité d'abattre le bétail sans l'amener au sanctuaire central. Plusieurs chercheurs considère que le but de Lévitique 17 consiste à affirmer le programme de centralisation articulé en Deutéronome 12, tout en indiquant que la boucherie ne peut pas être autorisée dans la forme d'une concession pour les Israélites qui habitent trop loin du sanctuaire. Cependant, l'analyse de Lévitique 17 proposée aujourd'hui suggère que cette approche traditionnelle est trop limitée. Il est possible que la loi de Lévitique 17, 3 à 7 soit envisagée pour réviser la loi de Deutéronome 12, 15 à 16, qui permettent la boucherie locale. Comme l'ont souligné Otto et Nyon, les changements des verbes au verset 3 à 5 de Charat à Zevar pourraient être considérés comme un indice d'une critique subtile des lois de Lévitique de Deutéronome 12, par contre, par les autres de Lévitique 17, puisque le verbe zavar, ra en Lévitique, joue un rôle clé en Deutéronome 12, 15 à 16, pour décrire la pratique de l'habitage local. Cependant, même lorsqu'on accepte que le texte de Lévitique 17 relie de manière critique la loi de Deutéronome 12, cela ne signifie pas que le discours sur la centralisation menée dans Lévitique 17 est dérivé de Deutéronome 12. Lévitique 17 utilise une logique rituelle focalisée sur les propriétés du sang pour justifier la centralisation des sacrifices animaux, c'est-à-dire les sacrifices sanglants. Cette logique ne fait jamais référence à l'idée fondamentale dans Deutéronome 12 que la centralisation du culte doit avoir lieu exclusivement dans les lieux choisis par Yahvé. En outre, en Deutéronome 12, la centralisation culturelle affecte toutes les offrandes des Israélites et non seulement les sacrifices sanglants. Il s'agit d'un point qui est répété plusieurs fois en Deutéronome 12. L'accent sur le sang, qui est au cœur de Lévitique 17, a un intérêt plus limité par rapport à celui de Deutéronome 12. Malgré son approche plus stricte à l'abattage en dehors du sanctuaire, le texte de Lévitique 17 se concentre sur la centralisation des sacrifices d'animaux, tout en laissant une certaine ambiguïté en ce qui concerne la centralisation des offrandes non sanglantes. Bien que le texte de Lévitique 17 ne dise pas explicitement que ces offrandes peuvent être présentées aux dieux sur un autre site que le sanctuaire central, l'accent du texte sur les sacrifices sanglants peut être considéré comme visant à établir une hiérarchie des pratiques du culte centralisé dans laquelle la restriction des sacrifices d'animaux est plus importante que celle des offrandes végétales. Ces remarques permettent de comprendre que l'interprétation du discours de centralisation mené en Lévitique 17 ne doit pas être lue uniquement à travers les prismes de Deutéronome, mais doit plutôt être considérée comme faisant valoir une conception distincte de la centralisation, qui est basée sur son intérêt spécifique pour l'élimination rituelle du sang. En abordant Lévitique 17 d'une façon qui prend au sérieux son accent exclusif sur les sacrifices sanglants, des possibilités nouvelles émergent pour situer ce texte dans l'histoire de la centralisation du culte Yahvé. En particulier, le texte de Lévitique 17 peut être comparé à des papyrus araméens trouvés dans l'île d'Elephantine en Égypte. Parmi ces documents, on a retrouvé une lettre envoyée au gouverneur perse de Judée, Bagoui, par les prêtres d'une colonie judéenne d'Elephantine concernant la reconstruction d'un sanctuaire à Yahoh dans l'île, ainsi qu'un mémorandum qui indique la réponse de Bagoui et de Delaya, fils du gouverneur de Samarie, à ce sujet. Le mémorandum précise que le gouverneur permet la reconstruction du temple à Elephantine, mais indique que son autel doit être seulement utilisé pour les offrandes du type mincha, offrande céréale, et levouna, en sens, alors que, de manière remarquable, l'ola, holocauste, n'est pas mentionné. Cette absence des sacrifices d'animaux dans les tombes d'Elephantine est encore affirmée dans une autre lettre qui confirme explicitement que les Judéens sur l'île sont uniquement autorisés à offrir le mincha et le levouna, le sanctuaire, et non l'ola. La raison de l'absence des sacrifices sanglants aux tombes d'Elephantine demeure un sujet de discussion. Toutefois, une interprétation souvent proposée indique que cette absence révèle un processus de centralisation du sacrifice animal qui permet en tout cas aux Judéens de la diaspora d'avoir un temple local pour les offrandes non sanglantes, comme le mincha. Les sacrifices sanglants étaient en revanche réservés au culte du temple central à Jérusalem et ou de temple à Garésie. Dans ces cas, on peut se demander si la correspondance d'Elephantine et les textes de Lévitique 17 attestent une tendance commune parmi certaines autorités religieuses de l'époque perse. Tendance qui met l'accent sur l'importance primordiale des sacrifices animaux pour la centralisation du culte Yahvé. Une influence directe entre ces deux sources est improbable. En revanche, une donnée qui demeure intéressante est que les deux sources semblent s'accorder quant au fait que ce sont spécifiquement les sacrifices sanglants qui ne peuvent pas être pratiqués dans des endroits périphériques, alors que les offrandes non sanglantes appartiennent à une catégorie qui soumet moins de restrictions. Je voudrais ici suggérer que l'accent de Lévitique 17 sur la manipulation rituelle du sang, plutôt que sur l'idée du lieu choisi, pourrait être un indice du fait que les autorités de Judée et ou de Samarie et effectivement accepté un nombre limité de sanctuaires en diaspora. Tant que ces sanctuaires ne transgressaient pas la règle fondamentale et non négociable d'une manipulation exclusive du sang sur l'autel central, et qu'ils limitaient le pratique cultuelle aux offrandes non sanglantes, ils ne représentaient pas un danger pour ceux qui étaient considérés comme le noyau essentiel du culte centralisé. La restriction du sacrifice sanglant à un autel central. Merci.